Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
août 2018, 20 ans jour pour jour que des coups de feu avaient retenti à Kinshasa. C'était le début de la guerre venue de la partie est de la République démocratique du Congo. Quelques jours plus tard, des forces étrangères coupent le courant à partir du barrage d'Inga à Kinshasa, la capitale. Ils vivent donc des longues semaines sans eau, sans électricité. Une histoire à revivre et à raconter dans cette histoire. Bienvenue à votre magazine, au micro Pamela Mounazomoualou. La prise de son est signée Jean-Claude Anciala. Jean-Marc Matuaki supervise pour parler de cette histoire difficile et tragique, je dirais même, de la République démocratique du Congo. Nous recevrons l'un des compagnons de Laurent Désiré Kabila. Il a été à l'époque porte-parole du comité exécutif de l'AFDEL. Il est actuellement conseiller de la République. Il s'agit de Raphaël Guenda, avec qui nous allons remonter dans l'histoire pour reparler de ce chapitre lié à la République démocratique du Congo. Bienvenue si vous êtes des nôtres sur www.radiokepi.net, également sur la FM partout en République démocratique du Congo. Agréable condition d'écoute de la suite de votre magazine. Fidèle auditeur de magazine Un jour une histoire, on se retrouve comme annoncé dans le sommaire de cette émission avec notre invité. Il a été compagnon de Laurent Désiré Kabila, porte-parole du comité exécutif de l'AFDEL et actuellement conseiller de la République. Il s'agit de Monsieur Raphaël Guenda. Merci de nous recevoir dans vos bureaux.
Bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Alors, nous l'avions dit tout à l'heure que nous nous intéressons à la guerre du 2 août 1998. À l'époque, vous étiez, aux côtés du feu président Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on peut remonter dans le temps, d'ailleurs, pour savoir ce qui s'est passé? Et déjà, pour commencer, vous aviez quelle fonction en ce moment-là, quand cette guerre avait été déclarée?
Eh bien, j'étais ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement. À cette époque-là, le 2 août 1998, je crois.
Alors ça s'est passé comment? C'était un matin, vous apprenez la nouvelle, ou c'était bien avant cette date du 2 août que vous aviez déjà quelques soupçons qu'il y avait quelque chose qui se tramait?
Bon, en réalité, l'ambiance était une situation où on pouvait s'attendre quand même qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il y avait une contradiction majeure qui était apparue quand nous venions de prendre le pouvoir l'année précédente. Et il se trouve que nos alliés manifestaient un sentiment ou des velléités de domination sur nous, ce qui n'était pas possible du tout, parce que nous étions des patriotes, des nationalistes à fleur de peau. Donc nous ne pouvions pas accepter cela. Et c'est une situation que nous envisagions déjà depuis longtemps. Et nous savions qu'il y avait quand même certaines velléités qui se sont déjà manifestées et que, chemin faisant avec nos alliés, ils avaient constaté dans, à quel point notre pays était riche. Et donc, il salivait déjà sur les possibilités de prendre tout cela entre leurs mains, et nous les savions. Mais pour nous, l'objectif, c'était de venir, n'est-ce pas, prendre le pouvoir, nous les Congolais, et ensuite voir ce que nous pouvions faire avec nos alliés par la suite. Et il n'était pas question pour nous de brader notre souveraineté, en tout cas.
Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres raisons cachées, par exemple, que des choses que le feu président Laurent Désiré Kabila aurait cédé, et après il s'est rétracté, d'où la cause majeure de cette guerre? Ou est-ce qu'il y avait encore d'autres causes?
Je pense que je viens de le dire, il y avait une convoitise de la part de nos alliés, pas une catégorie seulement, il y avait des alliés, nous en avions beaucoup. Il y avait certains qui étaient nos voisins immédiats, mais d'autres qui venaient de d'ailleurs. Parce que, souvenez-vous qu'à un certain moment, même la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, était avec la FNEL. Moi qui vous parle, j'étais en contact direct, régulièrement, avec des puissances que vous connaissez. Et souvent, quand Mouzé n'était pas disponible, c'est moi qui recevais les ambassadeurs de certains pays, si vous voulez, je peux les citer. Goma, etc. Et à un certain moment, quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, quand nous avons conquis Lubumbashi, nous avons reçu la visite en un seul moment des 19 financiers les plus puissants du monde. Tout le monde était, personne n'a manqué à la peine. Tout le monde se sont précipités vers nous pour commencer à faire des projets avec nous. N'est-ce pas? Bon, naturellement, il nous restait encore l'étape de Kinshasa. Il n'était pas question de faire un faux pas pour compromettre justement la victoire finale. Ce qui était possible si jamais on ne donnait pas des gages, n'est-ce pas, certains gages à toutes ces grandes puissances financières. Et nous avons joué à ce niveau-là, en tout cas, Taramote camarade, n'est-ce pas? Oui, à malin d'une. Vous savez que toutes ces grandes puissances-là venaient toujours avec l'ère politique d'exploitation et de domination. Malheureusement pour eux, nous tenions absolument à mettre fin d'une manière définitive à des relations déséquilibrées entre eux et nous. C'est ça la principale de causes qui ont conduit finalement à cette guerre du 2 août 1998. Le reste, ce n'était que des manipulations, tout simplement, des acteurs locaux et régionaux qu'on a utilisés pour atteindre ce but-là. En réalité, c'est ça. Nos difficultés et le problème majeur de Mouzé, qui l'a emporté d'ailleurs, c'était ça, sa politique de nationalisme, du patriotisme, qui a fait que toutes ces grandes puissances-là, quand ils sont venus, je vous ai dit, aucun n'a manqué. À la paix, ils étaient tous là, tous les Occidentaux, Canadiens, Américains, Français, Belges, tous étaient là, espérant que il pouvait avoir en Laurent Désiré Kabila un instrument qu'on pourrait manipuler, etc. etc. Il a peut-être joué un jeu ambigu parce que, comme je venais de dire, il y avait encore l'objectif Kinshasa à atteindre. Une fois arrivé à Kinshasa, il a dévoilé sa politique qui n'était pas une politique de Dupré, c'était une politique tout simplement de normalisation des relations entre notre pays et ces puissances étrangères, où il était question de faire en sorte que ceux qui veulent venir faire des affaires pouvaient venir, mais il fallait faire des affaires gagnant-gagnant. Alors ça n'arrangeait pas ces puissances étrangères qui, eux, étaient habituées à une politique de Dupré, qui consistait à signer des accords qui ne faisaient que privilégier leurs intérêts. Or, ici, avec Mouzé, c'était tout à fait différent. C'est là où le problème s'est posé. Ils se sont dit, tiens, on croyait manipuler cette personne alors qu'il était beaucoup plus malin que nous, alors il faut qu'il disparaisse. Comment? Alors, on a utilisé ceux que vous connaissez, les Congolais et nos voisins immédiats.
Alors pour ceux qui nous prennent en cours d'émission, vous suivez votre magazine Un jour une histoire. Nous avons notre invité en la personne de M. Raphaël Guenda. Il était compagnon de Laurent Désiré Kabila, porte-parole également du comité exécutif de l'AFDEL. Nous parlons de cette guerre du 2 août 1998. Finalement, cette guerre est déclarée. Comment cette réalité a été vécue au niveau du gouvernement à l'époque?
Évidemment, cette guerre avait compromis et porté un coup à l'élan de renouveau qui habitait dans tous les Congolais. Vous vous souviendrez que tous les Congolais avaient adhéré massivement à l'action de l'AFDER. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de cette époque-là, on parle d'époque de libération. Et effectivement, c'était une libération et tout le monde avait adhéré pour que on puisse aller dans l'avant cette fois-ci. Nous, en tant que hauts responsables, on voyait ça avec un peu de désolation parce que c'était une merveilleuse étape de notre histoire qui commençait et voilà que ça a été arrêté pour ça. Pas complètement arrêté parce que nous étions déterminés à mener la guerre pour justement continuer cet élan-là, donner le dynamisme qu'il fallait. Malheureusement, on s'est trouvé face donc à toutes ces puissances étrangères. Malheureusement, avec le concours de notre propre frère qui se sont mis à leur disposition. Alors, les rapports de force étaient tels qu'il fallait quand même trouver d'autres mécanismes, d'autres possibilités pour arrêter cette guerre. C'est ce que Mouzet a fait en initiant donc Lusaka, des négociations de Lusaka qui persisteront jusqu'à Sanssouci.
Est-ce que cette guerre du côté financier n'avait pas porté un gros coup sur le pouvoir à l'époque?
Vous savez que nous sommes venus, les caisses de l'État sonnaient vides. Il n'y avait pas des moyens pour permettre à ce que notre politique de renouveau se concrétise de manière conséquente, mais comme il y avait maintenant une politique saine, de gestion beaucoup plus saine, où l'argent de l'État n'était plus détourné, c'était ça qui était notre force, parce que avec les peu de moyens qui rentraient dans, cette fois-ci dans la caisse, qui n'allaient pas dans les poches des individus, ça nous permettait d'évoluer lentement, mais sûrement, nous avons posé des actes qui n'auraient pas pu être posés à l'époque, hein, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas toutes les sources de financement interne, donc en termes de fiscalité, etc., étaient à zéro. Alors, malgré tout, on a lancé un programme ambitieux, hein, qu'on avait appelé un programme minimum de reconstruction. Et souvenez-vous que c'était à cette époque qu'on avait lancé le franc congolais. Et le franc congolais, malgré la situation catastrophique de notre pays sur le plan économique, était beaucoup plus puissant que le dollar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour acheter un franc congolais, il fallait débourser 1,30 $. Vous comprenez? Donc c'était un exploit. Ça démontre le génie qu'ont les Congolais, n'est-ce pas, de rénover, de se battre, etc. Et à ce moment-là, d'ailleurs, l'on pouvait par la suite, quand les envahisseurs ont tenté de prendre Kinshasa, c'est le peuple lui-même, main nue, à Massina, dans tout Tchangou, partout, on les a mis en déroute. Ça vous montre que le peuple était particulièrement motivé, décidé à accompagner cette politique de renouveau que nous avons initiée. Donc, il y avait beaucoup de difficultés pour mener notre politique dans tous les secteurs, y compris dans le secteur militaire où on devait faire face à cette guerre-là, hein, avec des envahisseurs particulièrement bien outillés. Parce qu'avec l'appui de toutes les puissances étrangères, c'était très difficile. On a eu quand même un coup difficile à supporter pour mener notre politique de renouveau.
Est-ce qu'il n'y avait pas moyen à cette époque-là de faire appel encore à d'autres alliés? J'imagine qu'il y avait des gens qui pouvaient venir en aide pour vous aider à vous en sortir puisque le pays commençait à se relever.
Oui, comme vous avez pu le constater. Pour faire la guerre, nous avons fait appel à des amis, le Zimbabwe, le Angola, le Namibie, principalement, qui ont répondu très rapidement et qui ont permis de canaliser, de contenir les premiers assauts des envahisseurs. Sur le plan économique, on essayait tant soit peu de renouer des relations avec des pays tiers, mais c'était quand même assez difficile parce que la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale, hein, qui est un groupe de puissances étrangères, se sont mobilisés. Ils avaient mobilisé des capitaux, ils ont mobilisé des lobbying et beaucoup de choses pour nous contrecarrer dans toutes nos démarches. C'était très très difficile, mais avec l'initiation de négociations de Lusaka, les choses avaient commencé à s'orienter autrement.
Qui était proche du feu, président Laurent Désiré Kabila, quelle était son attitude face à cette guerre? Comment avait-il reçu cette information et surtout géré cette situation?
D'abord, Mouzé était bien encadré par la population. Son premier souci, c'était d'abord l'implication de la population dans tout ce qu'il faisait. Parce que, souvenez-vous, sa politique était basée sur la philosophie politique d'auto-prise en charge. L'auto-prise en charge par la population elle-même. Hein? Lui, il impulsait et la population s'accaparait, n'est-ce pas, de cette impulsion-là pour les concrétiser sur terrain. Et c'est cette symbiose qu'il y avait entre Mouzé et la population qui faisait vraiment sa force. Donc, il était particulièrement déterminé et ça lui permettait justement de poursuivre dans cette lancée patriotique, hein, qui consistait d'abord à ramener la paix, puis à poursuivre cet élan de reconstruction qui était lancé par le programme minimum de reconstruction.
Et en même temps, ça veut dire que du côté du gouvernement, il y avait quand même une petite faiblesse.
Comme je venais de vous dire, il y avait le rapport de force était tel que il était très difficile dans les premiers temps de contenir les envahisseurs. Mais avec la mobilisation qui s'était faite, la mobilisation de la population elle-même qui se battait déjà contre l'ennemi, les résultats étaient là à Kinshasa. On a vu que c'était la population elle-même, ce n'était pas les forces armées qui avaient fait des plans pour chasser l'ennemi, mais c'était la population elle-même qui a défendu sa ville. Et ça s'est passé dans plusieurs villes de la même manière. Et par la suite, avec l'arrivée de nos alliés, de nos amis zimbabwéens, namibiens et angolais, ça nous a permis maintenant de contenir ces assauts et d'initier cette fois-ci les négociations.
Monsieur Raphaël Nguenda, je rappelle que vous êtes notre invité dans cette émission. Est-ce qu'au niveau même du gouvernement, il n'y avait pas des complices, on va dire, des gens qui pouvaient prendre des informations sans citer des noms, bien entendu, des informations au sein du gouvernement, des stratégies que vous mettiez en place à l'époque pour pouvoir les divulguer de l'autre côté?
Oui, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Je vous ai dit qu'il y avait des velléités de certains des noms. Alliés qui étaient dans l'AFDEL et nous les avons détectés et au moment où Mouzé avait dit que tous nos alliés devaient répartir parce que la mission qu'on leur a demandé d'accomplir était atteinte et qu'il fallait rentrer. Vous voyez, on a vu comme par enchantement, c'est beaucoup de ceux qui se prétendaient être des Congolais disparaissent dans la nature. Et comme par hasard, on les retrouvera parmi les dirigeants même de la guerre. Alors on avait très bien compris. Et comme je disais, à quelque chose malheur est bon, ce complot, n'est-ce pas, a été dénudé par la décision de Mouzé, qui savait exactement, c'est un grand stratège, il savait que la décision de dire aux autres de partir, il y avait beaucoup de ceux qui prétendaient qu'ils étaient des Congolais, allaient prendre le large et ça nettoyait justement son environnement. Comprenez? Donc, l'environnement de Mouzé était resté beaucoup plus sain, avec des vrais patriotes. Et s'il y avait, parce que dans ce genre de situation, il y a toujours des complicités, mais dans une proportion en tout cas moindre. Parce que à ce moment-là, vous vous souviendrez que tous les ministres portaient de tenues de combat à l'époque, et ils prenaient des risques d'aller même un peu plus loin de Kinshasa pour aller soutenir nos militaires, etc. Et cette complicité n'avait pas vraiment beaucoup d'impact, si ça avait existé.
Et en même temps, cette guerre est l'une des plus meurtrières, ça il faut reconnaître, de la République démocratique du Congo. Est-ce que la solution peut-être n'aurait pas été de penser négociation avant de se battre finalement, quand on pense à ces milliers de Congolais qui ont perdu la vie?
La guerre avait commencé en 1998 et ça a duré 4 ans, je crois. Normalement, quand un pays est attaqué par de l'étranger, il faut que ce pays se défende avec l'espoir de gagner cette guerre et de rétablir, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale. C'est ça l'objectif d'abord. Quand on se rend compte finalement que cela n'est pas possible par les armes, on peut passer par les négociations. C'est ce qui se passe d'habitude. C'est pendant cette période-là, de 4 ans, qu'il y a eu une tentative de contenir cette guerre et de la repousser. Souvenez-vous, Mouzé dirait que cette guerre retournera là où elle est venue. Donc il fallait quand même du temps pour qu'on puisse pousser cette guerre là où elle est venue. Malheureusement, on n'a pas pu les repousser jusqu'au-delà de nos frontières, mais on l'avait contenu quand même. Oui. Alors, donc, au moment où on a trouvé que la situation des fronts était stabilisée, donc on était en position, quand même, sur le plan de négociation, d'exiger beaucoup de choses. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ce qui s'est passé d'ailleurs, ça nous a permis de dire, bon, vous voyez, il y a des envahisseurs, des gens qui viennent de pays étrangers, qui sont dans notre pays, ils doivent rentrer chez eux. Selon les règles, n'est-ce pas, de la communauté internationale, chacun doit rester dans ses frontières. Oui. C'était donc, nous étions donc en position de force à ce moment-là. Au moment où vous avez initié cette négociation à Lusaka. Mais les membres, c'est là où il faut établir les responsabilités. Il y a eu des millions de morts. Vraiment, une campagne méchante de massacre, n'est-ce pas, dans les territoires qui étaient occupés par les étrangers, avec la collaboration de nos compatriotes qui ont créé des partis que vous connaissez. Et c'est de cet côté-là qu'il y a eu des massacres énormes. Il y a eu des rapports qui ont été faits là-dessus. Il y a des charniers à Kasika, Kasenga, dans beaucoup d'autres régions. Les preuves sont là, palpables, et les témoins sont là. Congolais aussi qui ont été les acteurs là-bas peuvent témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a jamais eu d'enquête. Pourtant, il y a eu des millions et des millions de Congolais massacrés. Mais tout cela s'est passé dans les territoires occupés par les envahisseurs et leurs complices congolais. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le côté où le gouvernement avait le contrôle, il n'y avait pas de massacre. C'était plutôt la paix.
Et là, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre entretien. Monsieur Raphaël Guenda, que retenir justement de cette période tragique de notre pays?
Bien, on doit retenir de cette période tragique que notre pays est un pays qui attire la convoitise du monde entier. Chacun veut venir se servir, si j'ose dire. Et même si on doit passer sur des millions de cadavres congolais, cela n'a pas d'importance que les Congolais meurent. Mais l'essentiel, c'est qu'ils puissent prendre ce qu'ils ont envie de prendre ici, parce que ce pays est particulièrement riche et ça peut sortir pas mal de pays de la misère. Et nous connaissons même que les pays qui nous ont colonisés ici, si elle est, et il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce aux richesses puisées ici dans notre pays. Et je pense qu'il faut attirer l'attention encore une fois de plus aux Congolais qui sont en période électorale, qu'il ne faut pas chercher à remettre au pouvoir des personnes qui peuvent travailler contre leurs propres intérêts. Il faut mettre au pouvoir des vrais patriotes qui ont démontré dans le temps leur patriotisme. N'est-ce pas? Vous voyez, avec ce qui va se passer, qui est en train de se passer actuellement, nous risquons de connaître encore une période où notre pays va connaître des guerres, des massacres, aussi importants, sinon plus importants. Pourquoi? Vous savez que le cobalt va devenir une matière la plus importante pour l'industrie automobile. N'est-ce pas? C'est ce qui a été au moment où Léopold II avait pris en main ce pays, avait créé ce pays. C'était l'époque où l'industrie avait besoin de caoutchouc. Alors vous savez combien de Congolais sont morts à l'époque pour produire ce caoutchouc? Pas moins de 10 millions de Congolais. Donc nous risquons de connaître encore le même phénomène. Pour que les Occidentaux puissent développer leur industrie automobile, qui va se baser sur une batterie fabriquée sur base de cobalt, ils feront tout pour avoir cette matière-là. Et celui qui se mettra sur leur chemin, ils vont tout faire pour les garder. Et nous, notre pays, dispose de 60%, même plus, de cobalt dont le monde a besoin pour que cette industrie se développe. Alors vous voyez à quel point ces prédateurs vont se déverser sur nous. Alors, la corruption va jouer, comme c'est déjà le cas. On va opposer les uns contre les autres pour des raisons multiples. L'essentiel est qu'ils puissent mettre la main sur ce cobalt. Le contrôle de ce cobalt doit passer entre les mains des puissances étrangères. Alors, qu'est-ce que nous, Congolais, nous devons faire? C'est l'unité. Prenons conscience que nous devons être unis. Si nous sommes unis, nous sommes forts. D'ailleurs, les Belges, leur devise, c'est ça. Ils disent, l'union fait la force. Et c'est vrai pour les Belges. Ils ont toujours été unis. Qu'ils soient communistes ou quoi, gauche ou de droite, mais quand il s'agit de l'intérêt de la Belgique, les Français, c'est pareil. On a vu que même ces différentes... sur différents courants, communistes, socialistes ou capitalistes, quand ils passent au pouvoir, ils travaillent pour l'intérêt de leur pays, avant tout. Que vous soyez de telle ou telle obédience, ça ne compte pas. Mais ce qui est important, c'est d'être unis pour faire réussir une politique dans leurs intérêts. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. On est toujours divisés pour des raisons mineures, alors que dans des moments historiques comme celui-ci, nous devons nécessairement, il faut que les élites se mettent ensemble pour faire cette campagne d'éveil patriotique. Que ce n'est pas le moment maintenant là de commencer à se battre, à se haïr, à se excommunier, etc. Non, il faut trouver d'autres formules qui permettent à ce que tous les Congolais se retrouvent pour participer à l'évolution de notre pays de manière positive. Faire le contraire, c'est faire le jeu des puissances étrangères.
J'espère que vous avez noté ce conseil de notre invité. Il s'agissait de Monsieur Raphaël Guenda, compagnon du feu président Laurent Désiré Kabila, également porte-parole du comité exécutif de l'AFDEL. Nous nous étions donc intéressés dans ce numéro à la guerre du 2 août 1998. Merci à vous tous qui avez suivi ce numéro à la présentation. C'était Pamela Mounazo-Moalou. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir.